et on a deux programmes de compétition. Et la séance spéciale est aussi très belle puisqu'on y retrouve, mais alors là je vais pas du tout vous retrouver le nom de la réalisatrice, donc ça va, voilà, on a un très beau documentaire sur des très vieilles dames, l'une d'entre elles a 103 ans, qui parle de désir, d'amour et de passion, et c'est très beau parce que c'est, on a l'habitude de voir un peu des histoires assez misérabilistes, et alors là c'est pas le cas, ce sont des femmes qui, voilà, cette femme de 103 ans a rencontré le grand amour, je sais plus, à 60 et quelques années, alors qu'avant elle était dans un mariage assez terne et pas très heureux, et c'est très beau, c'est très, enfin c'est bouleversant, voilà.
C'est un rôle des modes que tu nous racontes, presque.
Et on peut préciser, parce que les auditeurs se diront, oui, mais les courts-métrages, je le fais comment pour les voir?
Oui.
Que de toute façon...
Quand est-ce qu'on les voit?
La semaine de la critique est reprise après Cannes.
Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez voir tous ces super films à la Cinémathèque française le week-end... Alors, je dis au hasard, c'est 9... Enfin, autour du 9-10 juin. Je ne sais pas si ce sera pendant le week-end, mais en tout D'accord. cas, c'est... Voilà, à ce moment-là, il y aura la reprise de la semaine de la critique.
Tu nous diras, comme ça, on fera l'info, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche, donc on ne va pas rester comme ça.
Je me permettais juste de poser une dernière question à Marie-Pauline, puisque on sait que de tout à l'heure, à 17h, il y a Bulle de rêve, oui. L'émission 100% animation de Radio Libertaire. Alors, le programme?
Le programme de Bulle de rêve? Alors, les auditeurs de Bulle de rêve savent qu'il n'y a pas toujours un programme. Mais bien sûr, on va revenir sur le cartoon movie dont on avait parlé très rapidement la dernière fois. On va dire quelques mots des sélections cannoises et notamment des nombres assez peu pléthoriques de films d'animation qui sont pour le moment sélectionnés. Et on va vous passer de la musique. Nicolas va faire sa célèbre rubrique livre. Et peut-être que je vous dirai un mot de la sélection d'Annecy, des films de fin d'études à laquelle j'ai aussi la chance et le bonheur de participer.
Bon, tout un programme. Alors, je vous dis, parce que là, il y a deux sous de scène qui est arrivé, donc il faut un peu accélérer. Donc, vous signalez que la semaine prochaine, donc le 27 avril, eh bien, nous ne sommes pas là, puisque c'est la retransmission d'un colloque sur l'éducation autogestionnaire qui se passe à Montreuil, 57 rue Étienne Marcel. Sinon, évidemment, vous pouvez l'écouter en direct sur Radio Libertaire. Et puis, le 4 octobre, puisque nous nous retrouvons, en tout cas pour les chroniques, pas pour longtemps, je me suis retrouvée, mais il faudra attendre un petit peu. Enfin, vous pouvez toujours venir dans l'émission. Alors, le 4 octobre, eh bien, on reparlera du livre de Olivier Lecourt-Grandmaison, qui sera à Publico à partir de 16h le samedi 4 octobre, donc il présentera son livre « Racisme d'État, État raciste ». Donc on repassera un morceau, donc un extrait de l'interview que nous avions faite ensemble ici sur Radio Libertaire dans les chroniques. Et puis on parlera, alors je prends mon élan, une affaire de principe d'Antoine Rimbaud avec la célèbre, que j'adore, Céleste Brunkel. La fleur de Buriti de Joao Salavisage et René Nader Mensora, La mémoire éternelle de Maïté Alberdi, Un jour, fille de Jean-Claude Monod, Le silence de Cybèle de Ali Yégané et Un homme en fuite de Baptiste Debrou. Voilà, très très bonne semaine et surtout, bien sûr, comme d'habitude, eh bien, tenez bon. C'est pas le 4 octobre, pardon, mais acculte pas. Non, c'est le 4 mai. Après le 1er mai. Et les garçons.
Allez, c'était quoi? C'était il y a 3 ans, c'est ça, que avant de commencer l'émission, je mettais un masque. D'ailleurs, dans la rue, on mettait des masques. Et puis, on ne se serrait plus la main. Bon, on ne se serre plus la main non plus maintenant, parce que finalement, avec les conflits au Proche-Orient, eh bien, si tu dis que tu plains les enfants de Gaza, tu es antisémite. Si tu dis que tu plains les otages du Hamas, te voilà de l'autre bord. Enfin, bref, on ne se serre plus la main. D'ailleurs, on doit, les masques, je ne sais pas si ça nous protégeait vraiment, mais avec ce qui risque de tomber sur le coin de la figure d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas ce qui peut nous protéger. Allez, quelques petits, je me souviens, histoire d'entamer classiquement ce magazine. Je me souviens de la mode des hand spinners. On en trouvait en province sur les marchés et à Paris, dans les boutiques à 10 balles. Dans le métro, il y avait toujours un gosse qui faisait tourner d'une pichenette ce bout de plastique et trouvait ça fascinant. Il y avait même eu un sujet du brevet qui calculait la vitesse de rotation en tours par minute, puis en tours par seconde. C'était le piège. Fallait-il multiplier ou diviser? Je me souviens que Perline m'avait montré la photo de la tombe aux mains qu'elle avait prise aux Pays-Bas. D'un côté du mur, le mari, enterré dans le cimetière protestant. De l'autre côté du mur, la femme, enterrée dans le cimetière catholique. Et par-dessus le mur, deux mains de pierre qui se rejoignaient pour l'éternité. Je me souviens d'avoir croisé des personnes nommées le bailli, boucher, meunier, métayer, prévôt, brasseur, en souvenir d'un de leurs ancêtres et de son métier. J'ai même croisé des carpentiers et des levavasseurs, pour qui connaît le patois picard ou normand. Mais je ne comprends pas le nom de famille voisin. C'est pas un métier, ça. Je me souviens que pendant le Covid, pour ne pas perdre la main ni la voix, Leïla est allée chanter sous les fenêtres des EHPAD de son département à heure fixe. Je me souviens qu'à 5 ans, on n'a pas encore conscience de ce qu'est la vie. On court après les papillons, on relâche ce qu'on attrape et on saute à pieds joints sur les fourmis. Je me souviens qu'à 10 ans, on pense que la vie est inépuisable. Mais on dit qu'un cochon d'Inde, ça n'a pas le droit de mourir. Et on pose des questions à sa grand-mère sur les taches qu'on lit sur ses mains et sur les rides qu'elle a décidé de ne pas cacher. Je me souviens qu'à 15 ans, on croit que la vie est encore plus longue que l'enfance. Même si le monument aux morts du village nous montre que quand on effectue la différence 1916-1888, on arrive à 28 pour Léon Gauthier, un des frères de grand-père. Je me souviens qu'à 20 ans, on sait que la vie est une pelote de fil embrouillée, avec des nœuds, et on ne comprend pas pourquoi celle de Bruno s'est arrêtée sous un camion parce qu'il n'avait pas de casque. Bruno, qui riait encore plus que nous tous réunis et qu'on avait adopté comme grand frère sans lui dire. Je me souviens qu'à 20 ans, on croit qu'on peut brûler la vie comme on veut et on ne se souvient plus quel alcool on a bu, d'où venait le tabac et quel était le sexe de la personne qu'on a embrassée entre deux verres sur un balcon chez Séverine lors d'un anniversaire. Je me souviens qu'à 30 ans, on sait que la vie n'est pas inépuisable mais qu'elle sera longue. Et on se demande d'ailleurs si on la passera seul ou à deux. Je me souviens qu'à 35 ans, on sait que la vie n'est pas inépuisable, mais qu'elle devrait être longue, et on se demande si on la passera à deux ou si ça vaut la peine qu'elle accueille une vie de plus dans son ventre. Je me souviens qu'à 40 ans, on sait que la vie est limitée, et on sait qu'on ignore la valeur de la limite. Je me souviens qu'à 45 ans, on tient à la vie, celle des autres maintenant, plus que la sienne peut-être. On sait que la vie ne tient qu'à un fil, ou au goutte à goutte d'une perfusion. Je me souviens qu'à 50 ans, on sait que la vie n'est pas inépuisable parce que déjà elle vous épuise et qu'on apprend le nom générique de quelques molécules chimiques. Je me souviens qu'à 60 ans, on dit à ces gosses qu'ils ont la vie devant eux pour ne pas leur avouer qu'on est derrière eux et qu'on ne sait pas si on a eu raison de les pousser sur le chemin. Je me souviens qu'à 65 ans, on sait à la fois que la vie est courte, mais pas tant que ça, puisqu'on est déjà arrivé là. Et quand on se retourne pour faire le bilan, on entend encore Bruno qui rigole dans le lointain. Je me souviens d'Ernest Hamelin. Je me souviens de Léon Guinel, d'Edmond Pavy, de Louis Salot, de Léon van der Hagen, quelques noms attrapés sur le monument aux morts de la guerre de 1914, le long du Père Lachaise, il y a 100 ans. Ils sont morts, peut-être pour rien, peut-être des gentils, peut-être des salauds comme l'autre. Louis Salaud va savoir. Alors, voilà que la régie me refait le coup. J'ai l'ordinateur qui ne fonctionne pas, donc je balance directement. On va commencer l'émission tout de suite. Non, mais je vais voir. Il y a un truc. Hein. Il y a 14 jours plutôt, je voulais passer un morceau de Bruno Brel intitulé « La rivière bambou » pour commémorer, comme on dit, ce qui s'était passé au Rwanda il y a 30 ans de cela maintenant. Et ce morceau avait refusé de démarrer. Je m'étais dit « cette semaine, je vais réparer le truc » et il refuse toujours de démarrer. Mais je pense que les textes de Jean-Marie seront disponibles. Evelyne, ne t'inquiète pas, je vais vérifier ça de mon côté. En attendant, je te donne le micro.
Oui, alors bonjour auditrice, auditeur. Un samedi de dessous de scène, un samedi de plus. Donc voilà. Alors nous sommes en petit comité pour l'instant. Un comité féminin, quoique moi je ne suis pas forcément pour la parité. Et donc j'ai le plaisir, donc je suis avec Anne Delalleux.
Bonjour à tous et toutes.
Qui fera sa chronique théâtrale. Mensuel ou voilà. Trimestriel, enfin voilà. Etc. Et Betty Pélissou, comédienne, bonjour. Metteur en scène, pour son spectacle, alors L'être d'une inconnue. Ensuite, nous aurons un texte d'un auteur poète, Jean-Marie Blanche, L'enfant d'aujourd'hui. Voilà, il interprétera ça. Nous attendons aussi la visite de Denis Lavant, comédien, poète, grand ami de Vincent Jarry. Et il vient pour nous parler des crabes de Roland Dubillard qui se jouent à l'heure actuelle au théâtre La Scala de Paris. Voilà, en deuxième partie d'émission. Alors, on va commencer tout de suite avec Betty Pélissou.
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour. J'aime bien ce nom Pélissou, là. C'est,
on dirait un petit bonbon. Je le dois à mon mari. Hein.
Ah bon oui. Ah, d'accord. Bon, ça fait rien.
C'est bien, c'est charmant.
Ben oui, c'est mignon.
C'est mignon. C'est de quelle origine?
C'est stéphanois.
Stéphanois?
Oui.
Ah, d'accord.
Voilà. Le papa de mon mari, je vous dis des bêtises parce que mon mari est de Saint-Étienne, mais le papa de mon mari est d'Aix-en-Provence. Donc, Pélissou, oui, ça sonne
ça sonne un peu, hein. Ça sent un peu les cigales, un
c'est
peu.
C'est ça.
Hein. Ah, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, alors j'ai vu un petit peu votre CV sur le Lucernaire. Si vous voulez en dire plus, vous êtes comédienne, vous avez une formation à Clermont-Ferrand.
Oui, voilà, je sors du conservatoire de Clermont-Ferrand. J'ai la chance, depuis 10 ans, d'avoir ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie Pocline et de pouvoir vivre de mon métier de comédienne et de metteur en scène, ce qui aujourd'hui n'est pas facile pour tout le monde. Et voilà, donc je suis très très chanceuse dans mon parcours.
Oui, et puis surtout, vous travaillez énormément. Hein.
Je travaille beaucoup. C'est la clé, je crois, de la...
Vous n'arrêtez pas, moi j'ai vu... là, vous jouez, vous interprétez une femme dans L'être d'une inconnue de Stefan Zweig.
Oui.
C'est un rôle extrêmement fort. Et puis, vous avez mis en scène Antigone de Sophocle.
Tout à fait.
Ouais, tout récemment, là encore, ça se joue.
Bah écoutez, ils terminent aujourd'hui et demain. Mes petits comédiens, ils sont à la Folie Théâtre. Je leur fais un petit clin d'œil parce que ce sont des comédiens absolument fabuleux. Et puis parce que Sophocle, dans son Antigone, parle de misogynie, de déni de la démocratie, de violence faite aux femmes, d'égotrip politique. Et il a écrit ça en -441. C'est fou quand même.
Bah oui.
C'est fou, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement.
Et c'est fou aussi quand même que c'est arrivé jusqu'à nous, hein, quand même, hein, quand on y pense. Hein.
Oui, ça a traversé le temps.
Oui. Mais Antigone, elle est très moderne. Hein. C'est une Antigone hyper moderne. Hein.
Ah, c'est incroyable, ce personnage est, oui, c'est ça, d'un modernisme fascinant.
Ah oui, fascinant. Oui, oui. Il y en a eu une de Danouille, mais je préfère celle de Sophocle. Je sais pas pourquoi.
Ah oui, c'est pas la même chose.
C'est pas la même.
C'est
pas la même.
C'est pas la même écriture aussi, sûr.
Non, c'est pas la même. C'est pas pareil. Mais les peu de mises en scène que j'ai vues, il y a une épure aussi. C'est vraiment une langue, vraiment, j'aime beaucoup ça. Je regrette de ne pas l'avoir vue, mais j'irai peut-être à Avignon.
Eh bien, Avignon, avec grand plaisir.
Voilà. Et puis, alors, il n'y a pas que ça. Il y a encore.
Il n'y a pas que ça. Non, 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 je reprends Le dernier jour d'une condamnée à la rentrée au théâtre
de Victor Hugo. D'après Victor Hugo. Donc, ça a été transposé parce que c'est un homme qui parle chez Victor Hugo. Et là, c'est une femme.
Oui, tout à fait. Et en fait, à la lecture du texte, je me suis dit, c'était encore plus. Je voulais le jouer absolument, donc la transposition, il fallait la faire. Mais le rapport qu'a cette condamnée à mort avec son enfant, avec toutes ces choses-là, pour moi, résonnait plus peut-être encore, si c'est possible, en étant une femme. Alors c'est stupide, parce que face à la mort, s'il y a bien l'endroit où on est tous égaux et tous pareils, c'est quand même là. Et je sais pas, le fait de le transposer, d'abord, a pas été difficile du tout, puisque Hugo a vraiment écrit son personnage comme un personnage auquel tout le monde pouvait s'identifier. Donc, c'était déjà presque une autoroute pour moi. Et puis, c'est un personnage auquel je suis attachée. Je le joue depuis 2017, personnage-là. Ça a été mon premier festival d'Avignon à l'époque. J'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Et j'aurai beaucoup de mal à m'en détacher tant qu'on appliquera encore la peine de mort dans le monde, je crois.
Oui. Ah oui, il faudra que j'aille le voir. Oui.
Avec grand plaisir.
Et puis ensuite, Richard III.
Et Richard III, où je.
Non, c'est pas vous qui jouez Richard III.
Hein. Je joue pas Richard III, je laisse ce rôle-là à William Mesguich, qui l'interprète magistralement. Mais effectivement, nous serons au Festival d'Avignon, au Théâtre des Gémeaux. Et j'ai la chance d'y interpréter la Reine Marguerite et la Duchesse d'York.
Voilà. Alors moi, je l'ai vu et je vous ai expliqué. Le problème, c'est que j'avais une paire de très grands monsieur qui m'ont coupé la vue scène pendant tout le spectacle.
Ça, c'est bien.
Je leur aurais coupé la tête, hein. Mais malheureusement, voilà. Ça alors, j'ai pas pu écrire j'ai pas pu rendre compte du spectacle parce que je n'ai rien vu.
Ah, c'est dommage.
Oui, c'est dommage. Hein. On devrait quand même penser aux journalistes qui ont besoin de...
Oui. Mais à toutes les personnes
de petite taille.
De
taille normale.
Oui. Voilà, oui, aux petites tailles, oui, de faire en sorte que les gens de petite taille puissent avoir une visibilité.
Je ne sais pas si vous faites pareil, moi c'est systématique. Je m'assois dans une salle de spectacle, une salle de cinéma, j'ai toujours quelqu'un qui fait 2,5 mètres qui s'assoit devant moi.
Eh ouais, enfin bon, c'est un détail, mais alors, je vais être obligée d'aller le revoir.
Oh, c'est dommage.
Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors là, par contre, Lettre d'une inconnue, oui, parce que c'est un truc qui résonne. J'ai relu, je l'avais déjà lu, la nouvelle de Stefan Zweig. Et Stefan Zweig, c'est un auteur, et ensuite, c'est un homme aussi. Et donc, c'est une figure très attachante, Stefan Zweig. Parce que c'est complexe. C'était quelqu'un qui était, comment dire, on pourrait dire apatride, parce qu'il avait, il n'était pas fixé à une nationalité,
non,
véritablement, parce que je crois il était autrichien.
Il est né autrichien. Il était d'origine juive. Il est né.
Oui, sans pratiquer la religion.
Pratiquer la religion. Il est né avant la Première Guerre mondiale, donc il a pris de plein fouet les deux guerres. Il a quitté l'Europe pour s'expatrier au Brésil quand le nazisme a pris de l'ampleur. Et il s'est senti tellement déraciné, tellement loin de l'Europe qu'il chérissait au-delà de tout, qu'il a mis fin à ses jours en 1942.
Oui, c'est ça. En fait, lui, il rêvait d'une Europe.
Absolument. Et j'ai un spectateur qui m'a fait une remarque qui m'a beaucoup, beaucoup chamboulée après Lettre d'une inconnue. Lettre d'une inconnue, pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une femme qui va aimer toute sa vie le même homme. Cet homme ne le reconnaîtra pas. Elle va avoir un enfant de lui, pourtant. Et elle finira par mourir, probablement d'amour. Et le spectateur en question m'a dit, il y a 2 semaines, qu'il pensait que Zweig avait écrit comme si lui avait été la femme et cet homme avait été l'Europe. Ah oui. Et c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis 2 semaines, parce que je trouve que c'est magnifique ce parallèle qui est fait là.
Ouais, oui, oui. Bien, bon, enfin, on peut extrapoler, etc. Mais ce qui m'étonne toujours, parce que là, c'est l'histoire d'une passion qui est, comment dire, qui est extrême, qui est presque
névrotique.
Comment dire, névrotique, oui, parce que bon, c'est un transfert. C'est certainement une personne qui a un énorme manque affectif dans sa vie. Et il se trouve que Stefan Zweig avait une certaine dévotion pour Freud.
Absolument.
Voilà, il a écrit une genre de biographie de Freud.
Oui.
Ouais. Et c'était un ami de Freud aussi.
Exactement, il faisait partie de l'intelligentsia à l'époque. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et effectivement, il était très proche de Freud. Et je pense que avoir accès ou au moins l'écho des travaux de Freud à l'époque lui a permis
de libérer ses intuitions.
Exactement.
Parce que, et formidablement, ça a eu un écho chez les lettrés, chez ceux qui ont pu découvrir ses œuvres. Stéphane, oui. Il est devenu célèbre avec ce genre de nouvelles, avec L'aide d'une inconnue, Amok,
oui.
La confusion des sentiments. Voilà. Il est devenu célèbre auprès des femmes aussi.
Enfin, voilà. Absolument, et c'est incroyable parce qu'il y a quand même peu d'auteurs masculins qui racontent aussi bien le cœur des femmes. Il est d'une justesse, mais que ce soit dans les sentiments les plus beaux, comme dans les sentiments les plus torturés, les plus sombres. Il a cette capacité, mais est-ce que c'est pas simplement de l'empathie, finalement?
Ça me fait penser aussi aux lettres portugaises qui auraient été écrites par un homme. Je sais plus à qui ça me faisait penser aussi. Il y a des hommes, ils savent très bien exprimer les sentiments des femmes.
Tout à fait.
Ça, on pourrait dire presque du fait qu'ils aient une certaine distance, c'est peut-être plus facile pour eux d'exprimer ce que...
Peut-être.
Je ne sais pas. En tout cas, alors c'est votre interprétation aussi qui joue, hein, je l'avoue. Parce que moi, je ne suis pas du tout sentimentale. Hein. Je ne suis pas sentimentale. Je suis incapable de pleurer parce qu'un homme ne m'aime pas. Enfin, c'est pas mon truc. Enfin,
je comprends tout à fait. Quelque part, c'est pas plus mal. Hein.
Non, c'est pas ça. C'est que votre interprétation, je veux dire, vous interprétez un personnage qui n'est pas du tout celui auquel je pourrais vraiment m'identifier, mais c'est tellement fort. Que malgré tout, alors je pensais aussi à Madame Butterfly aussi.
Oui, oui, ouais. Tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Alors, voilà, ce genre d'histoire là, parce que moi j'ai vu Madame Butterfly au cinéma. C'était le film de Mitterrand là, Frédéric. Un beau film, hein, vraiment un beau film. Eh ben moi qui suis pas sentimentale, j'avais les larmes aux yeux à la fin du film. Et avec votre interprétation, à la fin, c'était pareil.
Ah ben écoutez, je suis très très touchée. Merci infiniment.
Ouais, non, mais c'est vrai, parce que je sais pas pourquoi, ça trouve un cheminement, quelque chose qui fait que, parce que même si on se dit cette femme qui tombe amoureuse, alors je vais faire ça brièvement, hein, cette femme qui tombe, mais alors c'est lié à l'adolescence, hein, elle avait 13 ans quand cet homme qui était le voisin qui arrive, en face de son appartement, qui est écrivain, qui est un beau jeune homme, etc. C'est une adolescente, c'est normal qu'à 13 ans on tombe amoureuse d'un homme, je pense, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais alors, elle était encore presque une enfant. Et elle ne pense qu'à lui.
Exactement.
Hein, au point de l'attendre, de l'attendre derrière sa porte quand il rentre chez lui. Enfin, et tout ça, ça... Moi, j'ai connu des femmes qui pourraient réagir aussi de cette façon. Alors, il y en a qui vont dire, ce sont des érotomanes, c'est ceci, c'est cela. Mais quelque part, ça va au-delà d'une définition clinique ou psychiatrique, parce que même ce sont des femmes ou ça pourrait être des hommes. Qui va aller jusqu'au bout qui vont jusqu'au bout de leur amour, de leur passion, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les stalkers. Ce sont des gens qui vous suivent, qui pensent vous connaître, qui pensent vous aimer, qui pensent que vous êtes le centre de leur monde et que vous allez devenir, ils vont devenir le centre du vôtre. En lisant au départ, moi, j'ai très sincèrement eu un petit peu de mal à m'attacher à cet inconnu parce que j'avais cette réflexion de c'est très étrange de s'abandonner à ce point-là, de se nier à ce point-là en tant que personne pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et plus je lisais, plus je me suis aperçue qu'en fait, tout naissait d'une fêlure. Cette jeune femme, cet enfant, était excessivement seule. La présence de la figure paternelle n'existe pas. Elle le dit elle-même. Ma mère m'embrassa, ce qu'elle ne faisait jamais habituellement. Mm-hmm. C'était quelqu'un de très très seul. Et qu'est-ce qui se passe? Elle croise un jeune homme et d'un seul coup, ça remplit toute sa solitude. Et le seul moyen de ne pas retomber dans cette solitude, c'est de faire grandir cette affection, puis cet amour, cette dépendance, de se nourrir de ça. D'où, derrière, je pense, la névrose. Et c'est ce qui nous a semblé intéressant d'aller chercher avec William, c'est-à-dire d'aller chercher le côté... Elle n'est pas tout à fait équilibrée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Mais ce n'est pas pour autant, bien au contraire, que ça ne la rend pas attachante.
Oui, parce que si on va par là, elle n'est pas équilibrée. Mais qui, disons qu'elle pourrait être davantage équilibrée, mais qui n'a pas de fêlure finalement?
Ah, hein, ça, c'est vrai. C'est,
hein, je crois que. Parce que sinon, si on était comme des robots, hein, enfin, je veux dire, si on n'avait pas de fêlure, on serait insensible, hein, je suis désolée, mais il faut quand même qu'il y ait quelques petites portes, quelques petites fissures pour laisser rentrer la compréhension de l'autre ou la sienne propre, hein, parce que je crois que c'est pour ça, je vous dis, moi je serais plutôt dure, hein, non, toi tu m'aimes pas, bon ben fous le camp, et puis voilà, mais il y a quand même quelques petites fissures qui font que je puisse être accessible au cœur de cette femme. Oui. Voilà, c'est ça. Et ça me plaît parce que, quelque part, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, cet amour sans concession. Enfin, je veux dire, elle est prête à mourir parce que...
Ah ben, elle s'abandonne complètement. La vraie question, c'est où est la limite entre l'amour sans concession et l'oubli de soi?
Oui, mais elle s'oublie, hein, complètement à la fin. Hein. Je crois qu'elle s'oublie. Hein. Mais c'est pas mystique, mais pas mystique parce qu'il n'est pas question de Dieu ni quoi que ce soit. Mais ça pourrait rejoindre un peu le mysticisme de certaines religieuses comme Sainte Thérèse d'Avila.
Enfin, oui, je veux dire. Oui.
Voilà, parce que ce sont des femmes qui c'est pas un homme, c'est Jésus, mais bon, elle se donne totalement à cet amour et ça devient un truc. Bon, elles ont des hallucinations, hein, elles sont capables de voir la Vierge Marie. Ça, j'exagère. Non, mais je veux dire, il y a ce côté excessif, mais bon, on n'a pas forcément envie de porter de jugement, c'est comme ça, c'est tout,
vrai,
ça existe, c'est tout.
Regarde aussi, tu faisais référence à Butterfly, qui est un bel opéra aussi,
oui.
Mais aussi Adèle Hugo, qui est devenue complètement tout à fait. Full dingo aussi.
Oui, elle est devenue forte, mais en même temps, parce que c'est vrai, si on aime, eh ben, il faut, normalement, l'amour, ça devrait être... Ça devrait être l'amour fou, quoi. Ça devrait.
Je me sens épuisée par avance, moi, si je dois passer une vie entière d'amour comme ça.
Non, mais c'est court en plus. C'est une nouvelle qui est assez courte et on se dit, la jeune femme, de toute façon, elle ne va pas durer longtemps. Hein.
Et effectivement, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans tout ça, j'ai beaucoup aimé, moi, chercher le côté sombre aussi qu'elle peut avoir. Il y a une phrase qu'elle dit et qui me terrorise et je me suis dit, tout le monde va m'en parler et en fait, pas du tout. Elle parle de son enfant qui est mort, donc elle le veille, il est dans son lit à côté d'elle, et elle dit, à propos de son enfant, plus il te ressemblait, plus je l'aimais. Mais moi, je trouve ça d'une violence inouïe. C'est-à-dire que si l'enfant n'avait pas ressemblé à son père, ou si...
Elle aurait pu le rejeter, bien sûr.
Et il y a un côté... Enfin, là, pour le coup, j'aimerais bien avoir l'avis de Freud sur cette phrase-là, parce que... Et c'était très intéressant d'aller chercher ce côté sombre aussi, en fait. Et pas simplement la femme amoureuse.
Bah, parce qu'effectivement, il y a un petit côté névrotique.
Oui.
C'est sûr, c'est sûr.
Je crois que c'est là que les gens se reconnaissent, en fait.
Non, c'est pas ça. C'est que on peut avoir parmi son entourage ou des gens qu'on a connus. Enfin, c'est pas forcément soi, mais c'est des gens qu'on a connus. Et puis, on sait que ça existe, quoi. Moi, personnellement, je sais que ça existe.
Oui. Et puis, on a tous à un moment ou à un autre dérapé. Alors, pas dans cette mesure-là, mais il y a tous un moment où on fait quelque chose et on se dit après, mais pourquoi j'ai fait ça ? Sauf qu'elle, elle l'a fait toute sa vie.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, elle est lucide quand même. Elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle.
Oui, et c'est presque cette prise de conscience à la fin, quand elle dit « tous m'ont aimé, tous m'ont reconnu, sauf toi ». Pour moi, c'est presque cette prise de conscience-là qui la tue, finalement. Même si elle le savait depuis toujours, là, elle le verbalise. Et le fait de le verbaliser, bah, c'est « oui ». Tout ça, c'était fantasmé. C'était...
Mais en même temps, quand même, elle accuse pas mal l'homme qui n'est pas capable de la reconnaître.
Elle a des moments, elle a des vraies fulgurances.
Ben, elle l'accuse, oui.
Oui.
Oui, elle l'accuse. Mm-hmm. Moi, j'aurais été l'homme. Enfin, si j'avais été l'homme.
Tu te serais caché sous terre ou...
Ben, c'est-à-dire, quand même, ça m'aurait. Ouais. L'idée que quelqu'un m'aime et puis que je ne suis pas capable de le reconnaître.
Oui, mais en même temps, elle ne le lui dit jamais. Elle ne lui avoue jamais de son vivant. Et pour le coup, ils passent trois nuits ensemble, donc au bout d'un moment, il devrait quand même reconnaître la jeune femme quand il la croise dans la rue, mais elle ne lui dit jamais qu'elle était la petite fille en face de chez lui, qu'elle l'aime, qu'elle a un enfant
de
lui.
Elle lui dit pas parce que c'est trop fort en elle. Il y a trop d'émotions en elle. Et il y a des moments, il y a des choses qu'on peut pas dire parce que
c'est
on
possible.
Est stoppé par sa propre émotion parce que c'est trop intériorisé. Elle intériorise tout cette femme.
Oui.
Elle a tout intériorisé et à partir du moment où on intériorise ou on fantasme sur quelqu'un, après se retrouver face à la réalité, il y a quelque chose qui va pas. C'est plus possible de communiquer.
Très difficile. Je suis d'accord, parce que le risque qu'elle aurait pris en plus, c'était que lui lui dise « je suis désolée, mais c'est
pas
réciproque ».
Oui, mais c'est ça. C'est qu'en fait, elle ne voit plus vraiment la réalité. Non. Elle est avec l'image de l'autre qui est dans sa tête.
Oui.
Mais c'est pas celui qui est en face d'elle, en fait.
Et quand elle a des éclats de prise de conscience, c'est terrible. C'est... Quand elle se rend compte, c'est des fragments, ça dure très peu de temps. Mais c'est là que la douleur est la plus forte, en fait, pour elle, quand elle se rend compte de la réalité. Et elle revient systématiquement dans son fantasme et dans son délire.
Mais quelque part, si elle... Enfin, moi, je me mets à la place. Si elle exprime, elle se libère en envoyant cette lettre à cet homme, en lui disant « ton enfant est mort, je t'envoie cette lettre, je me confie parce que, de toute façon, moi, je ne vais pas survivre ». Je pense que dans son fort intérieur, elle se dit cet homme-là, un jour, il sera heureux de découvrir cette lettre, de savoir qu'il a été aimé. Voilà. On ne sait jamais. Il sera quand même heureux de savoir qu'une femme l'a aimé pour de vrai. Enfin, l'a aimé. Oui. C'est vrai quand même. C'est pas désagréable de savoir qu'une femme ou qu'un homme vous a aimé. Et elle le fait pour ça aussi.
Peut-être. Et ce qui est terrible, moi, j'ai pas gardé l'homme dans l'adaptation, c'est vraiment le regard de la femme. Mais dans le livre, il reçoit la lettre. Il ne sait absolument pas qui elle est. Il lit la lettre, il sait absolument pas qui elle est. Et c'était, cette femme lui envoyait des roses blanches tous les ans pour son anniversaire. Et c'est son anniversaire quand il lit cette lettre. Et il regarde le pot à fleurs chez lui. Et effectivement, pas de rose blanche. Il est incapable de se souvenir de cette femme, mais il se dit, j'ai pas les roses.
Et oui, c'est ça.
Et c'est tellement terrible. Jusqu'au bout, inconnu.
Oui. Mais on le voit pas, alors, mais on n'entend pas la fin.
Non, moi j'ai fait le choix, on a vraiment fait le choix de l'enlever de l'adaptation, parce que ça nous permettait aussi, notamment grâce à la superbe mise en scène de William Mesguich, ça nous permettait d'aller chercher un côté folie, de laisser la porte ouverte pour que le spectateur puisse se dire, mais est-ce que cet homme a, oui ou non, existé ? Est-ce qu'il y a vraiment un enfant dans ce lit ou est-ce que ça aussi c'est un fantasme? On aimait bien cette idée-là de laisser le choix au spectateur. Les spectateurs qui ont lu le livre ne se posent jamais la question. Pour eux, oui, il existe, oui, il y a l'enfant. En revanche, les spectateurs qui viennent, qui n'ont pas lu le livre, me le demandent souvent.
Ah oui.
Ouais.
Ah ouais. Effectivement, ouais. Oui, oui, parce que c'est un fantasme aussi,
oui.
Cet homme-là.
Oui.
Ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Mais en même temps, l'homme, cet homme qui n'est pas capable de reconnaître une, parce que on est comme ça dans la réalité. C'est une transposition. Mais combien de fois, moi, je me dis, je vois plein de gens passer autour de moi et je serais incapable de les reconnaître.
Oui, mais vous leur faites pas un enfant à chaque fois, rassurez-moi.
Voilà. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est que je pense que on vit dans un monde quand même où on a du mal à faire attention aux autres. Moi, je trouve. Hein,
ah bah oui.
Hein, je trouve. Bah, moi, je vois le petit village où j'habite. Bon, d'accord, il y a plein de touristes, mais moi, ça me choque. Je traverse un long chemin pour aller du village d'en bas pour descendre jusqu'à l'épicerie. C'est quand même un chemin, oh, c'est pas très long, hein, mais 1,5 km. Mais je croise des gens, ils me jettent même pas un regard. Hein. C'est comme si je n'existais pas. C'est pas grave, hein, bon, j'ai pas besoin d'exister pour tout le monde. Mais c'est un petit village, on croise pas grand monde. Mais il y a des gens, ils veulent pas vous... Ils sont dans leur monde et ce qui est autour. Ils pourraient regarder une fleur, mais toi, qui es un être humain, ils ne te regardent pas. Ouais. Mais, et ça, ça me choque. Mmh. Ça me choque parce que je me dis zut. Et je ressens dans l'aide d'une inconnue, je ressens cette indifférence pour l'autre.
Absolument.
Hein? Enfin, c'est l'homme, quoi. C'est son indifférence, il n'est pas capable de lui, il cherche une femme pour un coup, le soir, etc.
Oui.
Et même pas méchamment, c'est naturel. Bon, voilà, bon, voilà. Il aime les... Il a besoin, quoi. Bon, il lui faut une femme, le soir, pour s'égayer un peu l'esprit. Et puis, mais il n'est pas capable de lui voir un visage, de l'imaginer que... Et ça, malheureusement, c'est triste à dire, mais ça existe.
Et elle lui dit, tu as peur de te risquer dans le destin d'autrui. C'est exactement ce que vous racontez, les gens qui vous croisent sans vous regarder, juste vous dire bonjour. C'est ça, on ne se risque plus à entrer en contact avec l'autre et à apprendre l'autre.
Voilà. Et le contraire existe. Moi, par exemple, quand je fais des voyages en train, il arrive que je discute pendant une demi-heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 5 heures, 6 heures. Ça arrive. Ça arrive, des gens qui vous parlent de leur vie alors que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je ne les reverrai peut-être jamais. Le contraire existe
aussi.
C'est vrai,
mais c'est plus facile de se confier à un inconnu finalement.
Peut-être, oui, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Alors donc, c'est pour dire que c'est une nouvelle qui est extrêmement... Enfin, une nouvelle, non, c'est un sujet qui est extrêmement touchant, riche, hein, qui interpelle. Et donc, on va écouter la bande-annonce. Et alors, c'est une spécialité d'ici. Est-ce que vous avez envie de dire un extrait de cette pièce ou c'est trop dur?
Alors, je suis prise au dépourvu. Oui, oui, si, je peux.
C'est peu?
Je peux, tout à fait.
Qu'est-ce que vous préférez? C'est possible d'écouter la bande-annonce? On écoute la bande-annonce?
Voilà, comme ça, je me remets un petit peu le texte en tête.
Voilà, c'est ça, on va écouter la bande-annonce, oui.
Je me rappelle encore très exactement mon aimé, le jour et l'heure où j'ai irrémédiablement succombé à toi. Avec une camarade de classe, nous étions restés à causer devant la porte de l'immeuble. Là, une automobile a surgi, s'est arrêtée, et à ta manière impatiente et élastique qui encore aujourd'hui continue de me séduire, tu t'es élancé du marchepied en direction de l'entrée. Et tu m'as dit à voix basse et presque en confidence. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Et soudain, je me suis levée et je me suis dirigée vers chez toi. Je ne savais pas précisément ce que je voulais. Tomber à tes pieds, te prier de me garder comme esclave. J'ai peur que tu ne souris de ce fanatisme naïf d'une jeune fille de 15 ans. Mais tu ne sourirais plus si tu savais comment je me suis retrouvée dehors dans le couloir glacial.
comment j'ai dû, pour ainsi dire, m'arracher le bras du corps pour qu'il daigne se lever et que je puisse presser du doigt le bouton de la sonnette. Ton regard distrait m'effleura d'instinct pour, sitôt qu'il eut capté l'attention qui régnait dans le mien, se muer en ce regard que tu réserves aux femmes, en ce regard tendre qui vous enveloppe et en même temps vous déshabille, qui vous embrasse et déjà vous étreint. Ce regard qui avait fait de moi une femme amoureuse. Et aujourd'hui encore, quand je lis dans un livre le mot « enfer », je repense immédiatement à cette salle bondée dans laquelle j'ai tant souffert. Oublie de gémissements, de rires et de cris sanglants, à cet abattoir de la pudeur. À ton air curieux et intéressé, j'y suis tout de suite. Tu ne me reconnaissais pas.
Oui, pour les auditeurs, l'abattoir de la pudeur, c'est la salle d'accouchement des filles mères à l'époque de Stéphane Zweig, ou etc.
Voilà. Exactement.
Ouais, parce qu'on peut pas forcément comprendre si on connaît pas toute, on n'a pas vu toute la pièce.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors donc, est-ce que, un petit extrait. Ouais.
C'était la première fois que je subissais cette fatalité de n'être pas reconnue de toi. Cette fatalité qui m'a poursuivie toute ma vie et avec laquelle je meurs. Inconnue. Toujours aussi inconnue de toi. Pendant ces 2 années passées à Innsbruck, où à chaque heure je pensais à toi et ne faisais rien d'autre qu'imaginer comment seraient nos retrouvailles, j'avais prévu toutes les possibilités, des plus sombres aux plus heureuses. Mais que tu n'aies même pas remarqué que j'existais, jamais je n'aurais pu le croire. Même à mes heures les plus noires, même quand j'avais pleine conscience de ma nullité. Car à force de m'occuper sans arrêt de toi en perdant toute mesure, j'étais devenue assez folle pour croire que toi aussi tu pensais souvent à moi et m'attendais. Comment aurais-je pu seulement respirer si j'avais eu l'assurance que je n'étais rien pour toi?
Ah ouais, merci.
C'est moi qui vous remercie. Ça fait très bizarre de dire ce texte face à un micro.
Ben oui,
oui, et en même temps, c'est concret parce que ça traverse les ondes. Hein. Oui, c'est un habitacle matériel, mais comme un avion ou une automobile ou n'importe quoi, une fusée, ça traverse les ondes.
C'est vrai.
Et ce que vous êtes en train de dire, vous avez dit, ça va jusqu'à Aise ou ça va jusqu'à... jusqu'à Constantinople ou
c'est
Pékin.
C'est magnifique, c'est magnifique. Mais
ça voyage, ça voyage. Alors, il faut dire où ça se passe.
Eh bien, écoutez, on joue au Lucernaire jusqu'au 12 mai. Nous sommes en relâche les lundis. Donc, on joue du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h30.
D'accord. Et donc, au Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs.
Oui.
Ben, j'espère que... Mais vous l'avez déjà joué, cette pièce?
On l'a joué, alors on a eu la chance de le jouer déjà 2 fois à Avignon, à l'espace Roseau Teinturier, où nous retournons cette année encore avec l'être d'une inconnue. On l'a joué également à l'Épée de Bois, à la Cartoucherie, dans ce magnifique écrin, sublime théâtre.
Ah, l'Épée de Bois, c'est super.
C'est sublime. Et puis après l'Épée de Bois, le Lucernaire, je suis plutôt très très chanceuse comme comédienne sur ce coup-là, parce que ces 3 salles sont magnifiques.
Oui, oui, oui. C'est un peu haut quand même, hein, le paradis là-haut.
Il faut monter. Hein.
Hein.
Voilà. Une fois par jour, moi je vous assure, je fais les fessiers là en ce moment.
C'est bien.
Non, mais c'est pas ça. Mais ils devraient penser aux personnes qui sont un peu.
À mobilité réduite,
quoi. Alors, ils n'ont pas encore eu le temps de faire des travaux pour
ça. Je pense.
Parce qu'ils devraient penser à. Pour les gens qui sont en mobilité réduite, ils n'ont pas accès à ce genre de spectacle.
Là, c'est sûr. Oui, là, c'est très, très.
C'est dommage. C'est dommage. Enfin bon, on va pas, je fais cette petite critique.
Non, mais je comprends.
C'est toujours pareil, c'est ça, c'est que quand on est sur fauteuil roulant ou quand
mais
on est
bien sûr.
En béquille, etc.
Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà.
si jamais ils peuvent pas monter jusqu'au paradis, il y a aussi très belles pièces dans la salle rouge et la salle noire qui sont plus basses.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Kambach, Anne Baquet et le metteur en scène qui a été reçu par moi. Ça marche à du tonnerre.
Ah bah tant mieux, oui, tout à fait. Ils jouent en même temps que moi, je ne pourrais jamais les voir, je suis très déçue. Mais
c'est la même heure.
Ah oui,
c'est la même heure.
Ça marche bien, oui. Ouais. Parce que je veux dire que le sujet est intéressant, c'est très varié. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, on va le voir mercredi. Oui. Mais c'est très varié, et puis c'est très dynamique.
Oui, c'est ça.
Voilà, et puis il y a de la chanson, il y a. Je crois que même qu'on entend des trucs de Côte-François, de Marie-Paul Bell, des textes possible. Et tout ça. Ouais. Tout ça sur des mélodies, des trucs, des airs de Bach, c'est assez extra, quoi.
Oui, oui, c'est très chouette. Puis je dois quand même dire quelque chose qui est important, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais toutes les équipes que je croise au Lucernaire, de tous les spectacles, sont adorables. Donc
il faut
aller les voir tous, voilà.
Bah oui, 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 oui. Non, non, mais c'est un théâtre qui plaît beaucoup. Ils ont changé récemment de direction, mais moi j'ai connu à l'époque, il y avait Guy Hochet.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Et je sais que Terzieff, il est souvent allé aussi. Il a été soutenu par Laurent Terzieff. Donc c'est une belle mémoire du théâtre.
Ah, c'est une belle maison de théâtre. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a une vraie histoire. Ça se sent dans les murs. Ça se sent partout.
On avait un poète qui venait dire son feuilleton ici à Radio Libertaire, ce studio même qui s'appelait Vincent Jarry. Et il y a de nombreuses années. Tous les dimanches, enfin, le dernier dimanche du mois, gratuitement, il pouvait, parce que oui, voilà, il n'avait pas d'argent pour louer la scène, mais le directeur lui octroyait la scène.
Incroyable.
Pour, alors, il y avait une scène ouverte où les poètes se réunissaient pour dire leurs propres textes.
Wow.
Et une autre scène où il invitait des comédiens ou des vrais professionnels à dire leur texte.
Ah,
et c'est là que j'ai découvert Denis Lavant, d'ailleurs.
D'accord.
Ouais, parce qu'il avait invité Denis Lavant. Ouais.
Et le monde est petit.
Enfin, non, les grands.
Le monde du théâtre est petit.
Le monde est grand, ouais. Voilà.
Moi, j'aurais deux petites questions. Oui. On entend une musique dans la bande-annonce. Oui. Il y a une musique dans le spectacle.
Alors, le compositeur s'appelle Thomas Desbordes. C'est un compositeur extraordinaire qui est en Auvergne. Il est auvergnat et j'aime beaucoup les gens de là-bas parce que j'y ai grandi. Donc voilà, il fait des musiques fabuleuses. Il est souvent sur nos spectacles parce qu'il comprend très vite ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et c'est juste un bonheur de pouvoir travailler avec une musique originale.
Deuxième question, la langue de Stefan Zweig, c'est absolument délicieux,
oui.
d'une qualité d'écriture simple, ça passe tout seul comme ça, comme on l'a constaté. C'est le texte entier ou il a fallu faire des coupes, des adaptations
Malheureusement, j'ai dû couper. Et il n'y a rien de plus difficile pour moi, je l'ai fait sur d'autres auteurs avant, d'être juste la petite Betty Pélissou qui va couper dans du Racine ou dans du Zweig. Je déteste ça, je déteste. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de théâtres de pouvoir nous proposer des créneaux plus longs qu'une heure ou une heure et quart. Donc, il faut que nous, on s'adapte aussi. Et c'est ce qui a été fait là. Voilà, mais je
c'est bien fait, hein, c'est très bien fait. L'adaptation est très bien faite.
En fait,
ouais.
je n'ai rien réécrit. J'ai juste coupé. C'est déjà très douloureux de couper.
Ça passe très bien, parce que moi je l'ai lu aussi, évidemment. Oui. Donc ça passe très bien. Et la mise en scène de Goulam Mezghi, je trouve qu'elle est vraiment très fine, hein.
Alors,
très attentionnée, très fine. On est vraiment dans une ambiance.
C'est incroyable. Moi je suis une grande fan de William depuis des années. C'est un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Et sur L'être d'une inconnue, il a fait quelque chose que je trouve incroyable, c'est-à-dire qu'il a dessiné des tableaux lumineux. C'est fou ce qu'il a fait. Il a cette intelligence et ce don de voir les choses, de les mettre en mouvement, en image, au-delà même du jeu. C'est incroyable.
Ouais, oui, oui, oui. Non, non, c'était une très jolie mise en scène. Oui. Et est-ce que vous avez vu le film L'être de l'inconnu
de Max Ophüls, bien sûr. J'y suis tombée littéralement amoureuse de la photographie. Je trouve que c'est un très beau film visuel.
C'est beau, hein.
C'est magnifique. Et, Et j'ai vu ce film, j'ai vu d'autres interprétations de l'être d'une inconnue, et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que vous pouvez avoir autant de réalisateurs, autant de metteurs en scène, autant de comédiennes et de comédiens, que vous aurez de versions de l'être d'une inconnue. C'est-à-dire que chacun peut se l'approprier, y chercher, y trouver ce qui lui parle le plus, et le mettre en image ou le mettre en scène. C'est fou.
Ouais. Moi, quelque part, j'avais peur d'être déçue.
Je préfère que vous ne me l'ayez pas dit avant, ça.
Non, mais c'est pas ça. J'ai bien aimé le texte. Donc, parfois, on aime un texte et on se demande comment ça va.
Oui.
Et je me suis dit, est-ce que ça va bien avec ce que j'ai lu, enfin, etc. Et non, j'ai pas été. Au contraire, j'ai été enrichie.
Oh, merci beaucoup.
Voilà. Voilà. Donc, je souhaite une bonne continuation de ce spectacle. J'espère que beaucoup de personnes auront envie d'aller le voir.
On espère aussi.
Oui, parce que bon, Stéphane Zweig, tout le monde ne sait pas qui c'est, mais c'est dommage. Hein. Justement, j'ai rencontré quelqu'un dans le train. Oui. Il a vu que j'étais en train de dire un truc sur Stéphane Zweig. Il m'a dit ah, tiens, et il a photographié la couverture.
C'est bien ça.
Il m'a dit, je n'ai jamais le temps de lire, je ne le dis pas, mais... et voilà.
Eh bien, c'est parfait.
Donc, j'espère que ça aura le succès qu'il mérite. Hein.
J'allais vous dire merci, mais non, je veux dire comme au théâtre, je prends. Voilà.
Voilà. Alors là, maintenant, nous allons passer. Oui, vous pouvez y aller parce que vous travaillez à 19h. Voilà, oui.
Merci de m'avoir accueilli, vraiment.
Je vous en prie.
La vie est belle. Offre-lui des présents qui font font battre son cœur, démonte le passé que de rire elle en pleure. Le temps n'a plus de loi, d'ailleurs plus rien à dire, étendue près de toi, entends comme elle respire. Elle dépose les armes, fait mine de dormir, délace ta pudeur, embrasse son sourire. Elle souhaite nourrir ton amour du combat. Elle frissonne et soupire et se recroqueville. Bien que te désirant, elle ne te déshabille. Applique ce désir qu'elle nomme la foi. D'accord en désaccord, que vos deux corps s'unissent. Redécouvre en harmonie la note du délice. Dans ton sommeil d'enfant, diable, que la vie est belle. Tu renais de tes cendres, elle replie ses ailes. Donner vie au présent, connaître le passé, mémoire d'un avenir bientôt dans les musées. Répondez aux questions de l'enfant d'aujourd'hui. Il saura vous aimer quand il aura compris. Merci.
Merci.
Eh bien, c'est à moi. Je vous parle aujourd'hui de Music Hall Colette qui se joue au Tristan Bernard. Et j'ai adoré cette pièce. Déjà, j'adore Colette comme écrivain. Je ne dis pas écrivaine hein, parce que ça n'existait pas à cette époque. Enfin, voilà. Donc, elle était. Quand j'étais petite fille à l'école, les dictées étaient toujours des morceaux choisis d'auteurs connus, de romans. Et un jour, on nous a collé Claudine à l'école. Alors, ma foi. Et ça m'a donné envie de lire. Et les dictées me donnaient envie de lire les ouvrages. Donc c'est déjà un bon point pour l'école. Alors le Music Hall Colette, c'est Cléo Segna et Alexandre Zambou qui ont écrit ce spectacle. C'est interprété par Cléo Segna et la mise en scène est de Léna Bréban. Et c'est surtout Colette au Music Hall. Quand elle a quitté Willy, qui l'a trompé comme c'est pas permis, et, mais qui lui a fait découvrir des plaisirs plus qu'interdits. Donc, Colette au Music Hall, Colette dénudée, scandaleuse, mais c'est une pétulante vie de Colette, très très bien interprétée, inspirée, et c'était raconté avec un dynamisme et une leçon de vie par l'interprète Cléo Segna, qui est d'ailleurs nominée aux Molières, comme on dit gentiment. Elle chante, elle danse, elle charme le public, elle nous engueule. Elle est aussi en miroir avec la Claudine à l'école, qui lui dit, dis donc, tu devrais peut-être un petit peu t'arrêter, te calmer un peu, mais enfin, qui l'envoie aussi balader. Donc, Cléo Segna est vraiment une interprète formidable. Et comme elle dit à la fin, Elle aime la Bourgogne, le bon vin, la bonne bouffe, comme les aimait Colette. Colette qui s'en foutait pas mal d'être plus tard. Bon, c'est vrai qu'elle a été malade et peut-être qu'elle avait trop abusé de la bonne chair, mais ma foi, c'était un écrivain formidable. Et ça n'avait pas arrangé sa santé, c'est sûr. Donc, on a là devant nous une Cléo Segna, une Colette pétulante, formidable. Alors, Colette nous a quittés il y a 70 ans et elle repose au Père Lachaise. Sa fille l'a rejointe un peu plus tard, bien sûr. Et Colette, donc, a été mariée trois fois. Il y a eu Willy, il y a eu Bertrand de Jouvenel, le journaliste, et le dernier, c'était Maurice Goutquet. Donc, je vous engage vraiment à aller voir. Alors, c'est jusqu'au 27 avril. Ça se joue les jeudis, vendredis, samedi à 19h. Ce soir, vous pouvez aller voir au Tristan Bernard, Musical Colette, de Cléo Seigna et Alexandre Zambeau, dans une mise en scène de Léna Bréban. C'est drôle, c'est inventif, c'est très marrant. Il y avait une petite fille devant moi, je me suis dit, la môme, elle va peut-être se barber. Eh ben non, elle était contente. En plus, elle s'est fait draguer, la petite fille, mais son papa s'était fait draguer par la comédienne qui descend un peu dans la salle et qui chante aussi quelques lyriques d'Hervé de Volder, qui est assez spécialiste pour écrire les chansons des comédies musicales françaises que nous avons en ce moment. Voilà, donc, Musical Colette, Théâtre Tristan Bernard, jusqu'au 27 avril, c'est-à-dire jusqu'à samedi. À 19h, les jeudis, vendredis, samedi. Et j'ai vu une autre pièce, alors là, c'est pas du tout rigolo, c'est au Théâtre Séyon et ça s'appelle Majola. C'est une enquête, on va dire une enquête écrite et mise en scène par Caroline Darnay. Ça se passe en 1980, un journaliste américain et son caméraman vont interviewer la compagne de Amon Götz, qui était surnommée le boucher d'Hitler. Et cette femme, Irène Calder, fait un déni total sur le comportement, sur son mari. Il n'a pas tiré sur des juifs parce qu'il travaillait mal. Non, il n'a pas envoyé des enfants dans les chambres à gaz. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, donc, elle fait un déni total. Et elle retourne un petit peu la situation, Irène Calder. C'est-à-dire qu'elle va, elle aussi... poser des questions au journaliste américain qui est un ancien combattant de la guerre de Corée, et elle lui dit, mais au fait vous avez tué aussi des gens, donc elle met en miroir sa situation et la situation de ce caméraman qui naturellement qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire, et elle lui dit, mais Amon Götz a fait ce qu'on lui a dit aussi de faire, la même chose, c'est le même chemin, le même parcours. Donc c'est une très très bonne mise en scène de Caroline Darnay, c'est elle qui l'a écrite, et ça se voit comme un thriller presque, c'est passionnant, c'est une histoire, une histoire vraie, et une histoire qui vous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. Donc là aussi, alors là ça se joue au Théâtre Séyon à 21h, tous les lundis, jusqu'au 20 mai. Voilà. Oui, voilà.
Alors, on a le temps d'aller le voir, alors.
On a le temps d'aller le voir jusqu'au 21 mai. Pour Colette, il faut se préfacer un peu, c'est jusqu'à samedi. Oui. En plus, c'est 3 jours dans la semaine. Je pense que, vu le succès qu'elle a, ça va être repris, Colette. Parce que là, c'est pas possible. Elle a un tempérament de feu.
Qui ça?
Le Cléo Seigna, la Colette.
Ah, oui, d'accord.
Majola, c'est autre chose. Là, c'est l'histoire, donc, d'Irene Calder, qui était amie avec Oscar Schindler, d'ailleurs. La liste de Schindler.
Bon, alors, comme je ne sais pas si Denis Lavant est pris dans une manifestation, etc., on ne sait pas, il pleut, enfin bref, de toute façon, il y a toujours des intempéries. Ou des je ne sais pas quoi, enfin bref. On va peut-être mettre... Alors, on va mettre une bande-annonce du spectacle Les Crabes, de Roland Dubillard, qui a cette particularité. Alors, la pièce... est très bavarde. Ouais, c'est normal, hein, c'est une pièce. C'est pas du film muet. Très bavarde et puis très... ce sont des dialogues, on pourrait dire quand même très... c'est assez surréaliste comme dialogue. En même temps, c'est complètement fantaisiste, complètement fou. Mais la bande-annonce, alors j'étais très, très étonnée, elle est... Il n'y a que la musique et on est quasiment muette. Les gens qui voient la bande-annonce, ils la voient sur Internet, alors ils voient défiler des images quand même. Et il y a des superbes photographies. Hein. On voit l'image de l'affiche, c'est Maria Machado et Denis Lavant. C'est superbes photos. Hein. C'est vraiment très, très impressionnant. Hein. Tous les comédiens sont vraiment... Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu à Avignon. Tu l'as pas vu, toi ?
Non, je l'avais pas vu, les crabes. Non.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, tu l'avais vu aux Gémeaux, non ? C'est pas ça ?
Non, je sais pas où je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu.
À Avignon, quoi, voilà.
Et. moi, j'étais très impressionnée par ce spectacle. On pourrait peut-être. Alors, on dit que c'est une pièce comique. Moi, je dirais que c'est plutôt tragicomique.
Grinçante, non ?
Oui, grinçante. C'est l'histoire d'un jeune couple qui se trouve dans une maison, on pourrait penser une île, une maison au bord de mer. C'est un couple qui a l'air un peu paumé, hein, qui a des problèmes parce que la baignoire a une fuite d'eau. Et puis, ils ont les huissiers aux fesses. Et puis, ils ont l'intention de louer, d'avoir des locataires qui s'avèrent être un vieux couple, joué par Maria Machado et Denis Lavant. Et le jeune couple, c'est Samuel. Alors, je vais vous dire ça. La distribution, il faut que j'y retourne. Ouais, parce que maintenant, plus personne ne veut éditer de dossier de presse en écrit.
Oui, c'est rasoir.
Alors, du coup, je suis obligée de... Ben, d'avoir internet ambulant pour voilà. Alors attendez, il y a Trouvant, il y a Léna Lavant qui danseuse et comédienne, c'est comme son nom l'indique, c'est elle fait partie de la famille de Denis Lavant parce que c'est sa fille. Et voilà, il y a Trouvant. Et puis, un comédien qui a déjà joué avec Denis Lavant. Alors, théâtre, c'est pas ça. Il s'appelle Lercer, je crois. C'est Samuel Lercer. Et ils sont tous vraiment très bien. Voilà. Samuel Mercer, voilà. Nel Lavant. Et donc, Maria Machado, qui était l'épouse de Roland Dubillard, voilà. Et je ne savais pas, mais Maria Machado jouait la mère de Isabelle Adjani dans un film de Jean Becker, je ne sais plus.
Tu sais l'été meurtrier, non ?
Oui, c'est ça.
C'était l'été meurtrier, peut-être.
Je crois. Oui. Adjani jouait. Elle jouait la mère de Isabelle Adjani, Machado.
Oui, de voilà. Jean Becker, oui.
Ouais, ouais, ouais. Et elle s'occupe de défendre, de promouvoir toujours l'œuvre de Roland Dubillard. Et donc cette pièce a été mise en scène à Avignon dans le cadre de l'hommage à Dubillard, puisque l'année dernière c'était le centenaire de sa naissance. Donc on va écouter la bande-annonce. Muette, mais il y a un peu de musique quand même.
Le fait est que c'est une bande-annonce assez courte et assez, j'allais dire silencieuse, non, mais il n'y a pas beaucoup d'extraits du spectacle. En revanche, tiens, comme bande-annonce, puisque tu parlais du spectacle Musical Colette, on va écouter leur petit teaser ou bande-annonce. Bande-annonce en français, teaser quand ils annoncent ça. Tiens, c'est... Alors, effectivement, il faudrait que je me rappelle que c'est de la radio ici et que quand il y a une bande-annonce où ils mettent des extraits images du spectacle et des coupures de presse pour indiquer tout ce que les gens en pensent de bien ou de mal, mais en général c'est du bien dans les bandes annonces, eh bien ça serait bien aussi qu'il y ait des extraits du spectacle et que je vérifie ça avant de la diffuser.
Ah, il n'y avait rien ?
Non.
C'est quoi que vous avez passé comme bande annonce ?
Bah, c'était pour Musical Colette. Et Majola, t'as rien pour Majola ?
Ah ben, on va prendre le risque.
Allez, on va prendre le risque.
Effectivement, là, j'ai une bande-annonce aussi. On va vérifier tout ça en temps réel sur l'antenne de Radio Libertaire.
Pouvez-vous nous parler des activités de votre mari et de ses relations avec Oscar Schindler ?
Non, j'ai accepté de parler d'Oscar Schindler, pas de mon mari. Vous autres journalistes, vous essayez toujours de faire passer Goethe pour un monstre et moi pour... Non, si vous avez des questions à me poser sur Oscar Schindler, je veux bien rester, sinon je pars.
On a l'occasion de parler à la femme d'un des pires nazis de l'histoire, on l'interroge pas dessus ?
Nous sommes ici pour le reportage sur Schindler.
J'ai lu les témoignages des survivants sur vous, sur ce que vous avez fait pour eux, les petites faveurs, la nourriture.
C'était pas grand-chose.
Pour ces gens, un petit geste pouvait sauver une vie.
Les prisonniers parlaient entre eux et ils disaient... Il y a un ange à Platzau qui peut t'aider si tu lui demandes. Et cet ange, c'était moi.
Mais elle ne vivait pas avec lui en faisant de la résistance par derrière. Elle était dingue de ce type.
Elle partageait tout avec lui. Mais non, mais c'est pas ce qu'elle dit, ça.
Ce qu'elle dit, c'est des salades.
J'ai besoin de me souvenir que même dans les pires circonstances, il y a eu quelques traces d'humanité.
Monsieur Miller ne pense pas comme vous.
Un Franck, il s'est battu pendant la guerre. Les combats lui ont laissé des séquelles.
Votre mari n'a pas tué quelques juifs. Il en a exterminé plus de 8000. C'est à cause de gens comme vous que ce régime a pu survivre. Vous êtes des criminels de guerre.
Combien de civils innocents, de femmes et d'enfants vous avez tués quand vous avez bombardé Nuremberg et Leipzig ? Est-ce que Dieu vous a puni, vous ? Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, de toute ma vie, et vous dites que je suis une criminelle de guerre. Vous avez tué des centaines d'innocents et vous êtes un héros. La seule question qu'il faut se poser, je crois, c'est que faisons-nous maintenant ?
Eh bien là, c'est vraiment une bande-annonce avec un bon résumé du spectacle. C'est à l'Essaillon, celui-là, c'est
oui.
ça ?
Oui, oui.
Eh ben, je pense que, puisqu'on en est aux bandes annonces, vu qu'il y a quelques semaines, Moa recevait Anne Baquet pour Canbac, on pourrait passer la bande annonce de Canbac.
Ah ben voilà, très bien.
Ben ouais, comme Denis nous a fait faux bond, sans le vouloir peut-être, il a peut-être pris dans des transports en commun, hein, ces choses qui arrivent. Voilà.
Encore faut-il que je la trouve cette fois-ci, celle-ci.
Ouais, c'est vrai, bande-annonce.
Je peux peut-être parler deux minutes de ça.
Oui. Oui, bien sûr.
Oui, ben c'est comme quand elle est venue, effectivement, il y a de cela un petit mois.
Il n'y a pas de
bande-annonce.
Ah, il n'y avait pas de bande-annonce. Ah ben zut alors. Tu avais quelque chose à dire là-dessus ?
Oui, parce que justement, on parlait du Lucernaire tout à l'heure et de la programmation. Et j'ai vu mercredi dernier L'île des esclaves de Marivaux dans une mise en scène de Stéphane... Alors attention, Zekeli, oui j'ai du mal à prononcer mais c'est pas grave. Et donc j'ai beaucoup aimé le sujet et j'ai bien aimé aussi la mise en scène, très créative aussi. Alors l'île des esclaves c'est quoi ? C'est un naufrage, les patrons, c'est-à-dire les aristocrates et leurs serviteurs tombent dans l'île des esclaves. Et là les esclaves, ils inversent les rôles. Et bon, bah, tout ne se déroule pas vraiment comme, comme convenu, comme on pourrait le croire, parce qu'après tout, le pouvoir, bah, il monte à la tête aussi des autres, même des petits qui peuvent se démontrer aussi cruels et bêtes que leur patron, que leur maître. Donc c'est ça, l'île des esclaves. J'aime bien ce texte de Marivaux. Moi. Donc ça se donne au Lucernaire, alors à 20h, alors Betty Pélissou, elle peut pas le voir non plus, mais enfin, ça se donne au Lucernaire du mardi au samedi à 20h, à 17h le dimanche, et c'est jusqu'au 2 juin. Voilà, donc c'était très bien. Il y avait aussi une bande de salmômes dans la salle, parce que quand c'est les scolaires, c'est une horreur, et les gamins n'étaient pas tout à fait respectueux des comédiens et du public, mais bon... Quand on arrête de leur dire chute, il a boucle aussi. Voilà. Vive la culture.
Ah bah oui.
Tiens, et là on va vérifier si l'île des esclaves là, sur le site c'est du bon. Lucernaire, il y a un extrait du spectacle ou juste les rires des enfants.
Que deviendrons-nous dans cette île ?
Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet en nos mains. Dur. Injuste et superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains. C'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie.
Je n'en vis pas davantage.
Et voilà, pour le Lucernaire. Les salles s'appellent toujours Noir, Rouge et compagnie, comme du temps de Le Guillochet.
Voilà. Et la salle Noire, c'est le premier étage, parce que je vérifie toujours aussi, à cause de mes genoux et de mon arthrose, et, ben, voilà, et de mon âge. Et oui, la salle Rouge, c'est le deuxième.
Alors, Nicolas, si tu tapes Evelyne Tran YouTube, tu trouveras des enregistrements. Alors, il y en a une, c'est Les Hiboux et le Mot. Alors, il y a Jean-Marie qui dit un texte, et puis après, je crois que c'est moi. Ça dure 5 minutes 13. Alors, il y a une image, et puis après, c'est tout noir. Hein, mais je vais arranger ça. Mais on entend le texte, normalement. Et les drames YouTube.
Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que les dieux étrangers, dardant leur œil rouge. Ils méditent, sans remuer. Ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme du nombre qui passe porte toujours le châtiment. Le châtiment d'avoir voulu. Le châtiment d'avoir voulu changer. Le châtiment d'avoir voulu changer de place.
Car le mot
mot qu'on le sache est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume qui d'une aile allongeait l'envergure frémit sur le papier quand sort cette ligne. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu. Créé par qui? Forgé par qui? Jaillit de l'ombre, montant et descendant. Dans notre tête sombre, trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau, formule des lueurs flottantes du cerveau. Oui, vous tous comprenez que les mots sont des choses et roulent pêle-mêle au profit obscur des poses. Nous font gronder le verre, orageuse forêt. Du sphinx exprima, le mot c'est le secret. Le mot veut, ne veut pas, accourt, fait ou bacchante, s'offre, se donne ou fuit. Devant Nero qui chante, ou Charles IX qui rime, il recule, hagard. Tel mot est un sourire, et tel autre un regard. De quelques mots profonds, tout homme est le disciple. Toute force ici-bas a le mot pour multiple, moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref. Le creux du crâne humain lui donne son relief. La vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle. Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle. Les mots heurtent le front, comme l'eau le récif. Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif des griffes, ou des mains, et quelques-uns des ailes. Comme en un âtre noir, air des étincelles, rêveur, triste, joyeux, amer, sinistre, doux, sombre peuple. Les mots vont et viennent en nous. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme.
Alors, Anne va vous interpréter
un poème.
Mais de qui?
Alors, de Maurice Carême, sur le chat et le soleil. C'est aussi un clin d'œil à notre ami Fabien, qui adore les chats. Alors voilà. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi, le soir, lorsque le chat s'éveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil.
Ah, c'est sympa, ça.
C'est gentil.
Ah oui, oui. En plus, tu le connais par cœur.
Oui, c'est vrai.
Alors, j'ai dans YouTube,
oui.
YouTube Jean-Marie Blanche, j'ai au choix « Ça tourne pas rond ».
Ah, j'aime bien ça.
T'aimes ça?
Oui, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Oui.
Ben, on va mettre « Ça tourne pas rond », alors. Jean-Marie Blanche, YouTube. Ben ouais, c'est nouveau, ça. Il y a des trucs qui sortent. Il y a même au cœur de la planète dedans. Mais bon, c'est sans image. Hein. Enfin, on voit une image et puis après, c'est tout noir. Oui. Donc, il va falloir que j'arrange ça. Mais à la radio, ça passe, quoi.
Oui.
Mesdames, messieurs, ce sont des débuts aussi. Et des débuts auxquels j'attache une grande importance. En effet, son papa était mon parrain à la SACEM. C'est un homme qui a fait rire la France entière. Il était comédien, auteur de chansons, homme de radio. C'était Francis Blanche. Hein? On ne peut pas oublier Francis Blanche. C'était un homme extraordinaire. Eh bien, un jour, dans mon bureau, un petit bonhomme, un peu rondouillard, est venu me trouver. Il m'a dit « Bonjour, monsieur, je suis le fils de Francis Blanche et je voudrais chanter. » Alors, c'était tout naturellement logique qu'à mon tour, je parraine son fils. Eh bien, viens, là où ton papa est passé tant de fois à la télévision, voici son fils, Jean-Marie Blanche, qui chante Ça tourne pas rond dans ma petite tête, une chanson de son père, bien évidemment. Jean-Marie Blanc. Jean-Marie Blanche.
On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des soins maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des belles dames toutes nues. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Paraît qu'avec de la poigne on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne. Moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'ai, j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des conneries.
Jean-Marie Blanche, oui, effectivement, et ça date de 1986. Il y a des auditeurs qui n'étaient même pas nés à cette date-là.
Oui, exactement, et presque 38 ans déjà. 86, oui, 38 ans. Oui, oui. Le temps passe, on ne le voit pas passer, c'est bizarre, hein. Je ne comprends pas. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et il y a quand même des enregistrements qui sont restés, eux. Ah, voilà. Ça sonne.
Oui, ben, on vous fait ça en temps réel, oui. Finalement. On vous fait une émission en kit aujourd'hui, donc vous voyez, la conférence de presse où on se réunit avant de commencer l'émission. On dit à 16h58, Evelyne ira ouvrir la porte et toi, Nicolas, tu lanceras un petit morceau musical le temps que arrive l'émission Bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation.
Chers amis, chers auditeurs, merci la beaucoup. Semaine prochaine, il n'y aura pas de dessous de scène puisqu'il y aura un colloque sur l'éducation. Et quant à Denis Lavant, ben c'est peut-être moi qui l'invitera. Hein. Voilà. Bon. Bonne semaine à tous.
Bon théâtre à tous.
Bonjour à tout le monde. En effet, on est bien bulle de rêve à l'heure. On a cru qu'on allait être en retard, mais non, on est à l'heure, ce qui est un peu impressionnant. On a commencé par pour mettre une ambiance un peu étrange, même si l'émission va pas être si étrange que ça. Mais voilà, The Legend of the Hell House, vous avez écouté, qui est un film de John Hough. J'aurais toujours ces problèmes avec le H en anglais, c'est H-O-U-G-H, avec Pamela Franklin et Roddy McDowell, qu'on connaît un petit peu mieux. C'est un film de 1973, tiré d'un livre d'un monsieur assez connu en 1971, Richard Matheson, qu'on connaît bien, c'est Megaman, enfin voilà, pas mal de films, et qui reprend un peu, on va pas dire qu'il a plagié parce que c'est un peu différent, mais qui reprend cette idée de maison hantée qu'avait de superbe roman de Shirley Jackson en 59, The Haunting of Hill House, qu'avait adapté déjà Robert Wise en 63. Et là, donc, c'est un film en français qui s'appelle La Maison des Damnés. Pourquoi on commence comme ça? C'est une très bonne question. Comme si on avait besoin, à but de rêve, forcément, d'avoir, de savoir pourquoi on commençait. J'en ai aucune idée. Si, en fait, c'est juste parce que je suis tombé dessus, j'ai vu le film et la musique de Brian Hodgson et surtout Delia Derbyshire que vous entendez est absolument magnifique. Elle a vraiment une espèce de ces nappes comme ça qui est très belle. Et Delia Derbyshire est une grande compositrice qui est connue surtout pour Doctor Who, mais c'est une des premières qui a travaillé sur la musique électronique. Et donc, elle raconte, il y a un très beau documentaire sur elle où elle raconte qu'à la BBC, c'était assez drôle parce qu'à l'époque, c'était des bandes. Et donc, en fait, il mettait les bandes dans tous les couloirs de la BBC qui prenaient des mètres et des mètres, sans tête de mètres comme ça, et qui découpaient évidemment pour faire des boucles et des choses comme ça. Donc voilà. Donc je vous conseille absolument Delia Derbyshire. Alors, autour de la table, il y a l'équipe, ce qui est déjà pas mal. Donc vous l'avez déjà entendu, c'est la journée Marie-Pauline Mollaret, peut-être que ce soir elle va le revenir. Bonjour Marie-Pauline.
Bonjour Alexis.
On ne sait jamais, peut-être qu'elle est prévue pour une autre émission. Et Nicolas Tisse.
Bonsoir.
C'est un peu une émission pas spéciale Nicolas Tisse, mais il avait envie de revenir sur le cartoon movie parce qu'elle n'avait pas parlé suffisamment, donc on va en parler. Il voulait râler contre Cannes, donc on va en parler. Il voulait parler un petit peu d'action, donc on va en parler. Et évidemment d'Annecy. Et évidemment, il voulait aussi nous parler des livres, donc c'est un peu ce qui est bien. Il y a plein de fans, je sais, de Nicolas qui écoutent, donc ça va être un peu voilà, une spéciale. Mais alors j'ai décidé d'arrêter. On va faire un deal entre nous. Le jour où ça ne sera pas Marie-Pauline qui donnera le disque du mois, je le dirai. Tant que je ne le dis pas, on dit que c'est elle. En plus, de toute façon, elle le fait d'une manière très... Voilà, ça dit, c'est le disque du mois. Si jamais, hein. Voilà, et elle prend un album en plus assez moyen en face en disant juste, peut-être que tu préférais que ça soit celui-ci. Et donc, voilà. Donc, on va